RCF.
Bonjour à tous, nous recevons encore aujourd'hui avec plaisir l'historienne Anne-Laure Charles, doctorante à l'Université de Franche-Comté, puis ancienne guide conférencière de la Citadelle, qui vient de publier aux éditions Sêtre « La captivité de guerre de l'armée allemande à Besançon, la Citadelle à l'époque du dépôt 85, camp de prisonniers de guerre entre octobre 1944 et leur libération, donc l'évacuation du camp, et que ces prisonniers regagnent leur pays, la République fédérale allemande, en avril 1948. Alors, Anne-Laure Charles, bonjour. Je rappelle à nos auditeurs qu'on avait évoqué, bien sûr, les conditions d'admission, enfin les conditions d'accueil de ces prisonniers, et puis l'affaire Brodorowski, de ce général qui avait été assassiné, les représailles en Allemagne, et puis, bien sûr, le rapport du CICR de Genève. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'occupation de ces prisonniers allemands, parce qu'ils ont été enfermés pendant 3-4 ans. Que faisait-il à la citadelle de Besançon quand on sait qu'il y avait ce qu'on appelle les travailleurs libres et qu'ils pouvaient très bien aller dans les champs pour aider les agriculteurs ou chez des artisans, dans des entreprises, que sais-je encore? Alors, ces travailleurs libres, c'était des volontaires? Alors Charles,
il faut déjà remettre le contexte. Hein, les travailleurs libres, c'est une proposition du gouvernement français qui n'est faite qu'en 1947.
Ah oui, c'est très tardif quand
voilà,
même.
Voilà, totalement. En 1944, 1945, hein, les premiers mois, disons, jusqu'à la capitulation de l'Allemagne nazie en
jusqu'au 8 mai, ils sont enfermés.
Ils sont détachés, c'est plutôt d'un point de vue journalier, voire hebdomadaire. On va les détacher là où il y a un besoin immédiat de main-d'œuvre. Donc là, concrètement, le premier hiver 44-45, les prisonniers sont utilisés pour aller enterrer les autres prisonniers décédés.
Tout simplement.
Pour aller décharger des trains de marchandises, tant à la Mouillère qu'à la gare Viotte. On va les utiliser voilà, pour différentes missions ponctuelles et assez urgentes.
C'est des commandos, c'est oui.
C'est ce qu'on appelle des commandos, voilà, exactement. Des commandos de travail. On les utilise aussi pour aller déminer. On a le cas de déminage à côté de l'Ure pour travailler dans des industries, etc.
C'est ce qu'on appelle la reconstruction de la France par voilà. L'ennemi allemand, par les Allemands.
Voilà, exactement. La reconstruction de la France dans tous les sens du terme.
Et puis, bon ou mauvais.
Au fur et à mesure, ces prisonniers vont quitter leur dépôt. Il y a toujours du travail à faire au dépôt. Il y a toujours la cuisine, il y a toujours l'entretien des lieux. On a une certaine administration qui est mise en place. Il y a besoin de traducteurs, de chauffeurs, etc. Donc il y a toujours un petit pourcentage de prisonniers qui restent au cœur du dépôt, mais ils n'en ont pas forcément bien envie. Hein. Le but, c'est d'aller là où on mange mieux et puis là où on se sent un petit peu plus libre que dans des murs de pierre. Voilà. À Besançon, le comité international de la Croix-Rouge évoque des commandos principaux, surtout en Franche-Comté, là, des commandos agricoles. C'est quasi de la moitié, voire parfois beaucoup plus, des prisonniers qui sont utilisés dans les commandos agricoles. Il y a également des commandos de forestage. Hein, donc, ils vont travailler. Là, c'est un commando qui n'est pas apprécié, celui-là. Hein, voilà, parce que c'est très dur et puis ils n'ont pas forcément suffisamment à manger pour le travail effectué. Il y a également des prisonniers qui sont utilisés pour les travaux publics hein, ou dans des entreprises privées. Voilà, donc tous ces prisonniers sont là pour combler une main-d'œuvre hein, qui a manqué. Le pays, déjà a été occupé pendant 4 ans. Hein. On s'est privé de plus d'1,5 million de nos hommes qui étaient prisonniers de guerre en Allemagne, plus les réquisitionnés, plus les déportés et ainsi de suite. Donc il y a énormément de choses à remettre en place dans le pays. Donc c'est une main-d'œuvre qui est précieuse. Donc la France garde ses prisonniers coûte que coûte pour reconstruire le pays.
Et elle veut les garder jusqu'à 40.
Voilà. Elle veut les garder pendant un sacré moment,
possible,
le plus longtemps possible.
Il a fallu d'ailleurs que les Anglo-Américains voilà. mettent
les Américains, au bout d'un moment, veulent surtout faire barrage au communisme. Oui, oui. Il faut renvoyer les soldats de l'armée allemande dans leur pays. Après, attention aussi, on a tendance à faire des raccourcis avec soldats allemands. Tous les soldats de l'armée allemande ne sont pas allemands. Hein, il y en a à peu près les 9/10, les autres
Tchèques,
sont
des Lituaniens,
voilà, des Français, des Hollandais, des Belges, des Roumains, des Hongrois,
des Allemands,
etc. Mais effectivement, au bout d'un moment, il faut les autorités américaines pensent à rapatrier tous ces prisonniers pour vraiment que l'Allemagne se reconstruise, soit un pays solide et puisse faire barrage au communisme. Hein. Hein. Donc l'Allemagne va être constituée en deux différents pays, mais qu'en 49. Là, on est en 45, 46. Bon, les prisonniers sont là depuis un moment. Et puis à partir de 47, la France enfin établit un plan de rapatriement de ses prisonniers. Donc c'est un calendrier sur l'année 47
et 48.
Très long,
hein, pendant une année, je crois.
Voilà, deux ans. 47-48, en fonction de l'âge du prisonnier. Si oui ou non il est veuf, le nombre d'enfants qu'il a et son savoir-faire, il va être ou pas rapatrié. Et puis, vu qu'on voit ces prisonniers nous échapper hein, en France, le gouvernement va penser à différentes solutions. On va encourager les mariages.
Oui, tout simplement.
Voilà. Les mariages donc, qui faisaient scandale, disons que des rapprochements entre une Française et un Allemand qui faisaient encore scandale en 45-46, on les encourage bien dès la fin 47 et 48. Hein, comme ça, bah, ils vont rester en France, ils vont faire des enfants. Ou alors, on leur propose une sorte, on appellerait ça aujourd'hui un CDD d'un an. C'est un contrat
de travailleurs
libres.
Voilà. Travailleurs
donc
libres.
Ils ne seraient plus prisonniers, ils seraient travailleurs étrangers et ils seraient autorisés à travailler en France, à faire venir leur famille, à toucher des allocations. On les encourage vraiment à rester en France. Donc,
il y en a des milliers,
il y en a même des dizaines de milliers pour différentes raisons. Il y en a beaucoup qui sont tombés amoureux de la fille de l'employeur. Il y en a qui ont une famille qui habite dans la zone d'occupation soviétique et qui n'ont pas du tout envie de vivre une nouvelle dictature. Il y en a qui habitent dans des régions totalement dévastées. Hein, le nombre de villes qui ont été bombardées en Allemagne, il n'y a plus aucune industrie, il n'y a plus rien, ils ne savent pas quoi faire en revenant. Donc ils contractent ça. Et puis, ben, par la suite, certains prolongent le contrat et s'établissent en France. Ou alors, ils rentrent à la fin de ce contrat-là.
Oui. Car rappelons que ce sont des hommes assez jeunes, ça va de 17 ans jusqu'à 50 ans à peu près, les prisonniers, oui.
Oh oui, disons que... Bon, on va les maintenir captifs jusqu'à la capitulation de l'Allemagne nazie. Et après la capitulation, après le 8 mai, déjà, tous les moins de 15 ans sont rapatriés chez eux.
Les moins de 15 ans retournent en Allemagne.
Des moins de 15 ans. Voilà, après les 15, 16, 17, 18 ans, on va y avoir une attention particulière, puisque beaucoup sont fanatisés hein, et ont grandi dans l'éducation nationale socialiste.
Nazie, hein, oui, tout à fait, avec les jeunesses hitlériennes. Hein.
Totalement. Donc, et puis, il y a des prisonniers. Par exemple, moi, j'ai trouvé dans un rapport d'armée, là, le prisonnier le plus plus âgé, qui est décédé à la citadelle, il a 65 ans.
Ah oui, quand même. Hein,
donc on a vraiment tout un échantillon d'âge. Après, il faut rappeler qu'à Besançon, ce n'est pas un camp d'officiers. Donc forcément, les prisonniers sont assez jeunes.
Assez jeunes, hein, oui.
Pour être gradé, il faut déjà avoir une certaine expérience.
En tout cas, ces travailleurs libres, ils travaillent finalement, ils ont un contrat, ils sont rémunérés, je crois.
C'est ça, hein, c'est ça. Tant qu'ils sont prisonniers, l'employeur n'a aucun avantage financier. Il va payer son prisonnier comme il paierait un autre employé. Par contre, l'administration... Hein, militaire va ponctionner une partie du salaire pour faire tourner les dépôts, pour rémunérer les autorités en place, et le prisonnier va en toucher une petite partie.
Et ça se passe bien en général, oui.
Alors ça va être la première forme de rapprochement
franco-allemande. Hein,
franco-allemande. Ça va se mettre en place. Il y a une historienne, Nathalie Généroufiac, qui a très très bien décrit cette évolution des rapports. Les premiers mois, on a la colère, hein. Il y a la haine, il y a la rancœur du Bosch qui est encore là sur le territoire et on lui fait payer cette occupation.
Bien sûr.
Au bout d'un moment, la rancœur se calme un peu. Hein, disons que les sentiments vont s'apaiser. C'est pas encore l'amitié, mais ça va doucement. Disons que la colère s'efface. Après, on va avoir une certaine compassion.
Oui.
Hein, on va se rendre compte que ce prisonnier, il a aussi une vie en Allemagne. Il a peut-être aussi des enfants. Ce n'est pas le bourreau nazi comme on se l'imagine. On a cette fois presque une personnification de l'armée allemande. Et puis, le fait de travailler avec quelqu'un presque tous les jours, d'essayer d'échanger malgré la barrière de la langue, hein, il va effectivement y avoir des liens. Et c'est là où c'est une mémoire qui aujourd'hui finalement n'est presque plus connue. Mais du moment où on en parle, on entend partout autour de nous, mes parents, mes grands-parents ont employé
un prisonnier.
Il était traité comme le fils. Mais après, dans les premiers temps, les employeurs doivent être très très vigilants. Hein, parce que si le prisonnier s'évade, l'employeur doit payer une amende de 1500 francs.
Oui.
Il n'a pas le droit de manger à la même table que son employeur. Le prisonnier doit être enfermé à clé la nuit.
Ce que les employeurs ne font pas d'ailleurs.
Pas tous, non,
pas
loin
tous,
de là.
Il y a
vraiment
des gens très humains.
Vraiment pas. En général, c'est vraiment la famille l'adopte.
Donc des liens de sympathie, d'amitié, et puis vous le dites, entre des jeunes femmes et des jeunes hommes, des liens amoureux qui vont se créer aussi.
Voilà, hein, exactement. Ouais. Moi, je connais un prisonnier là, qui est resté vivre d'ailleurs dans la région et qui est tombé amoureux d'une Française hein, et qui a donc décidé de s'établir en France.
En France. Alors on va évoquer aussi maintenant dans cette partie d'émission sur la vie culturelle à la citadelle de Besançon vers ces prisonniers de guerre allemands, parce que vous nous rappelez des choses tout à fait extraordinaires dans cette vie culturelle. On chantait.
On a la chance à Besançon vraiment.
On dessinait, on écrivait des poèmes.
On a connu une vie culturelle
intense,
mais bon, comme dans beaucoup de cas, mais surtout on a réussi à en garder des traces. Voilà, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Bah, comme toute population, au bout d'un moment, l'intellect reprend le dessus. À partir de 1946, la vie culturelle à Besançon, pour ses prisonniers, peut commencer à se mettre en place. La Croix-Rouge a fait parvenir des livres, a fait parvenir des instruments de musique. L'association aussi, le YMCA, a fait parvenir énormément d'éléments. Donc on a un orchestre qui se constitue, un chœur qui va visiter les différents commandos de travail de la région. On a un journal qui se met en place.
Oui.
Voilà.
Le fameux
Lagerboteux. Donc c'est un journal mensuel, dès janvier 47 jusqu'à la dissolution du camp en avril 48. Tous les mois, on a un journal de plusieurs pages qui retrace un peu le contexte français, le contexte allemand, un contexte international. On va apprendre des mots vocabulaire français utile à ces prisonniers. On va leur raconter des histoires drôles. On essaie de leur changer les idées. Et surtout, j'ai rencontré un ancien prisonnier qui avait l'ensemble de ces journaux de camp. Et on a réussi à le convaincre qu'il les donne au musée de la résistance et de la déportation aujourd'hui.
C'est ce qu'il a fait.
Voilà, c'est ce qu'il a fait en 2011, totalement.
Alors, il y a du théâtre aussi.
Voilà, il y a des pièces de théâtre, il y a des ateliers de création. Dans ces journaux aussi, j'ai retrouvé ils organisent la fête du sport à la Citadelle. C'est au mois de septembre 47. Alors, voilà, il va y avoir pas mal de compétitions qui sont organisées, des courses de sacs.
Oui, c'est ça. Est-ce que les autorités françaises favorisent ce genre d'activité?
Oui. L'encadre, bien sûr, mais l'encourage. Un prisonnier qui est stimulé intellectuellement est un prisonnier qui aura moins de chances de causer des problèmes ou de s'évader. Oui. Donc oui. Et ça fait partie également de la Convention de Genève. C'est un des articles vraiment pour la santé mentale. Oui.
Justement, l'état psychologique de ces prisonniers, je suppose, quand ils arrivent, ils sont complètement perdus.
C'est très très compliqué. Principalement, moi j'ai rencontré des prisonniers qui ont été faits prisonniers en Allemagne, dans les dernières semaines, dans les derniers jours même, pour certains de la guerre, et qui sont ensuite transportés en France. Et là, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Moi, j'en connais un qui a été fait prisonnier fin avril 45. Le 8 mai, il se dit qu'il va être rapatrié en Allemagne. Et pas du tout. Il va être envoyé à travailler dans les mines du Nord-Pas-de-Calais. Il va être libéré qu'en décembre 48. Donc, en fait, pour eux, déjà, la première pensée, c'est qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que je suis et combien de temps ça va durer?
C'est ça.
Et très rapidement, il y a un désespoir qui se met en place parce qu'ils se rendent compte que la captivité n'est pas prête de s'arrêter là. 46, les autorités parlent d'évasionnite. Il y a un taux d'évasion qui est assez extraordinaire. Et après, une fois le plan de rapatriement se mettant en place, l'espoir reprend. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très très long. Il y a des prisonniers qui ont été enrôlés en 39, en 40, et qui ne seront libérés qu'en 48. Sur le front français, si on prend la situation des prisonniers de l'armée allemande sur le front russe, ils sont rapatriés qu'au milieu des années 50.
Absolument. Hein.
Voilà, et pour ceux qui ont la chance d'être encore en vie.
Il y en a qui ont été en Sibérie, il y en a qui sont morts.
Ouais, totalement.
Les autorités soviétiques ne prenaient beaucoup, certainement moins de gants qu'avec...
Comme l'Allemagne nazie n'a pas respecté la Convention de Genève sur les prisonniers soviétiques, loin de là.
Absolument,
ça a été abominable.
Oui.
Contrepartie s'est faite après la guerre.
Alors, on reviendra après cette courte pause sur ces fresques que vous avez découvertes, les œuvres d'un soldat allemand qui s'appelle Vitatschik, c'est ça ?
Volstazik.
Parce que ça, vous avez fait des découvertes aussi dans certains endroits de la citadelle, on va l'évoquer. Et puis, ces rencontres que vous avez faites avec certains prisonniers qui sont tout à fait mémorables à raconter dans cette émission.
RCF en Franche-Comté, à Mèche, sur le 107 FM.
La captivité de guerre de l'armée allemande à Besançon, donc la citadelle, à l'époque de ce fameux dépôt 85, ce camp de prisonniers de guerre qui a été en activité, je vous le rappelle, d'octobre 1944 à avril 1948, que nous fait revivre une historienne, ancienne guide conférencière à la citadelle, doctorante à l'université, Anne-Laure Charles, un ouvrage de référence, un ouvrage que je dirais de mémoire, publié par les éditions Sêtre. Alors on va évoquer cette découverte que vous avez faite, que par la même occasion un photographe de la ville de Besançon nous restitue dans cet ouvrage. C'est des œuvres de peintes dans certains endroits de la citadelle, en particulier avec le fameux Wojtasik, c'est ça?
Wojtasik.
Wojtasik, voilà. Les œuvres de monsieur Wojtasik.
Quand on entre à la citadelle, dans la première entrée, la première ligne de défense, les deux derniers niveaux en fait disposent d'énormément de salles et une bonne partie de ces salles sont recouvertes par des œuvres. Les matériaux sont assez difficiles à voir. Hein. En plus, la conservation n'est pas optimisée, hein, loin de là.
Avec l'humidité.
C'est ça, l'humidité. Les quelques 7 décennies qui sont passées n'ont pas aidé non plus. Plus le matériel qui a été stocké là-bas pendant un moment. Donc, on a ces œuvres qui ont été dessinées, qui ont été peintes, qui ont été crayonnées, avec à chaque fois une signature Hans Wojtasik, 1946. Donc, est-ce un manque de curiosité ou je ne saurais l'expliquer, mais personne s'y était intéressé jusqu'à ce je les voie. Et en 2011, j'ai réussi à retrouver la famille de Hans Wojtasik. Lui est mort il y a quelques années, malheureusement. Je l'ai manqué à 3 ans près. Par contre, j'ai retrouvé le fils qui est venu avec son épouse et son fils également à Besançon pour la première fois en 2012. Et il a découvert... Il savait que son père avait été prisonnier à la citadelle, mais comme beaucoup, il n'avait quasi pas échangé sur cette thématique. Et il a découvert, là, pour la première fois, les œuvres qu'avait réalisées son papa, qui était maître artisan peintre. Hein, ça a été son métier. Il est originaire du nord-est de l'Allemagne, au nord de Berlin, à Waren, Müritz. Et donc, du coup, ça ne le surprenait pas plus que ça. Mais par contre, oui, ça a été vraiment très émouvant pour lui. Hein,
de découvrir les œuvres de son père.
Totalement.
Qui était véritable artiste, quand même.
Oui, voilà. Après,
un peu naïf, mais quand même.
Voilà, exactement. Il y a différentes influences au cœur de ses œuvres. C'est assez sympathique.
On peut peut-être rappeler quelques thématiques, Anne-Laure, si
voilà,
vous
permettez. Voilà, on a effectivement la thématique du militaire, la thématique du soldat. Et puis, quand on change de niveau, on va avoir les contes de Grimm, on peut trouver Blanche-Neige et les 7 nains, Hansel et Gretel. Quand on change de pièce, on va trouver un poisson rouge dans un bocal. On a des paysages bavarois.
Oui, bavarois.
Voilà,
aussi.
C'est ça qui est fantastique.
D'Afrique
dans
du
ces
Nord
œuvres,
aussi.
Des œuvres d'Afrique du Nord, voilà. Oui. C'est, puisque, effectivement, les gardiens du dépôt étaient en majeure partie établis dans la première entrée. Oui. Donc on peut supposer que Hans Wojtasik a réalisé les œuvres là pour embellir le lieu de vie des troupes. On est en 1946, les relations sont correctes entre prisonniers et gardiens. Et effectivement, la ville de Besançon a mis en place un travail de numérisation. Éric Châtelain a photographié l'ensemble des œuvres, elles sont numérisées. Je les ai mises en ligne sur mon site internet, donc www.pga-besancon.eu. Et puis on a réussi également avec un ami à faire une visite virtuelle de ces œuvres. Vous pouvez sur mon site vadrouiller à travers les salles qui sont fermées au public parce que très très mal agencées, la sécurité n'est pas optimisée pour le public. Donc on peut vadrouiller virtuellement. Elles sont au moins sauvegardées d'un point de vue virtuel aujourd'hui.
Voilà, elles sont sauvegardées.
En attendant de voir ce que l'on décide d'en faire, en tout cas, oui.
En tout cas, c'est une découverte pour nous, Bisontins, pour nous, Franc-Comtois, grâce à vous, Anne-Laure. Alors, je voudrais qu'on évoque les personnes que vous avez rencontrées, en particulier un Allemand, Hans
Helmut Kuhnle.
Helmut Kuhnle.
Voilà. Effectivement, une partie, en tout cas, des personnes, parce que j'en ai rencontré
beaucoup en Allemagne.
Énormément, voilà. Helmut Kuhnle, oui, je l'ai rencontré en 2010. On avait pris d'abord un contact téléphonique pour totalement autre chose. Et sa petite fille m'avait évoqué qu'il avait été prisonnier dans cette citadelle. je lui avais dit, bah, si son grand-père est, voilà, a envie d'évoquer cette période qu'on connaît très mal avec moi, qu'il n'hésite pas. Et sa première lettre, il me l'avait écrite en français, où il me précisait, alors vous, jeune française, j'avais 24 ans à l'époque, même pas, vous vous intéressez au parcours d'un vieil Allemand pendant la guerre. Et effectivement, on a beaucoup échangé. Et puis c'est à partir de là que les travaux ont commencé. Il a été soldat à 18 ans, prisonnier à 20 et libéré à 24. Il a été maire de sa ville, petite ville à côté de Stuttgart, après avoir trouvé un poste dans l'administration allemande. Il a été maire pendant plus de 20 ans. Et lui, vraiment, sa priorité, c'était de mettre en place des jumelages, des programmes d'échange scolaire. Le franco-allemand, ça a été la priorité de toute sa vie. Il voulait que ses enfants parlent français, que ses petits-enfants parlent français, pour qu'on arrête
vraiment d'aller... Vraiment, une amitié profonde entre...
Voilà, exactement. Et il est décédé à la fin de l'année 2014.
Et il y a l'ouvrage aussi de Willy Bender que vous êtes...
Oui, le Steinpilze. Ah, là, oui, Steinpilze, c'est fantastique aussi. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir France 3 qui suit mes recherches depuis le début, qui avait fait des petits reportages.
On avait un très beau reportage, d'ailleurs, voilà, signé Isabelle Brunarius, que vous aviez réalisé en Allemagne.
Oui. Voilà, Isabelle Brunarius a réalisé 3 reportages sur cette thématique et mes travaux. Ils sont en ligne aussi sur mon site internet. Et grâce à ces reportages, eh bien, j'ai les enfants d'un ancien prisonnier qui m'ont contacté en disant « Mais vous êtes en train de feuilleter un ouvrage que mon père a créé. Willy Bender, il est mort en début des années 90. Lui, j'ai pas pu le rencontrer. Mais c'est un acteur qui a un rôle capital dans la vie culturelle du dépôt. Il écrit des poèmes, il fait des dessins. Voilà, il essaie d'égayer en tout cas la vie de ses prisonniers, que ce soit dans le camp ou dans les commandos. Et Helmut Kuhnle, ce prisonnier, avait un exemplaire du Steinpilze aussi. Et il l'a également donné au musée, sachant qu'il a été édité à 500 exemplaires. Voilà, on a la chance à Besançon d'avoir cet ouvrage qui est aussi numérisé en ligne sur mon site. Il y a eu une centaine de dépôts en France qui nous rappellent qu'effectivement plus d'un million de prisonniers sont passés par là, mais les traces physiques sont très très rares. Il y en a à peine quelques-uns, ça se compte sur les doigts d'une seule
main. Besançon, on a la chance.
On a la chance à Besançon d'avoir les œuvres à l'entrée, d'avoir les Lagerbote, d'avoir ce petit livre qu'est le Steinpilze. On a des photos, quelques-unes, rares photos des fonds du musée de la résistance et de la déportation. On voit des prisonniers qui rentrent de commando, qui sont sur la place d'appel de la citadelle. Donc voilà, d'un point de vue de la topographie de cette mémoire, on a vraiment de la chance ici à Besançon. Ouais.
Et les historiens en sont ravis, je suppose.
Hein, oui. Effectivement. Sûr,
oui. Alors, ces prisonniers allemands, quand ils ont regagné leur pays, Anne-Laure Charles, on voit dans un film récemment, un documentaire national sur France 3.
France 2, oui.
France 2, c'était la reconstruction
les Allemands reconstruisaient la France.
Quand les Allemands reconstruisaient la France, on voit ces prisonniers allemands qui sont accueillis à la descente de leur train par des fleurs, etc. Tous n'étaient pas comme ça. Je suppose, ils avaient perdu leur famille. Les villes étaient complètement détruites.
Voilà. Oui. Les villes, pour certaines, ont été bombardées.
Dresde, Düsseldorf,
les
Berlin,
industries ne fonctionnent plus vraiment. Oui. L'Allemagne est occupée par 4 autorités différentes. L'envie de rentrer dans la zone occupée par les soviétiques, les familles disent bien, prenez votre temps pour rentrer. En ce moment, c'est quand même pas terrible. Est-ce qu'on va trouver du travail en rentrant? Donc c'est pour ça que certains préfèrent rester en France. Et puis d'autres ont quand même une famille, ils rentrent, mais ils découvrent. Certains découvrent leurs enfants. Ils sont partis des années, soit en tant que soldats et ou en tant que prisonniers. Ils rentrent, il faut se refaire une place au sein du foyer, ne serait-ce que retrouver sa place près de sa femme, près des enfants, tout comme nos prisonniers français.
C'est la même chose quand les prisonniers français sont revenus
rentrés en
1945.
C'est exact.
Ils étaient prisonniers depuis 1940.
Il y a un taux de divorce qui a explosé en France après la guerre.
Bien entendu, oui.
À cause de ces conditions-là. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Il faut se remettre dans les paperasses.
Il y a des enfants, comme vous le dites, qui ne connaissaient plus leur père, qui ne reconnaissent pas leur père.
Totalement. Et puis, il y a beaucoup de parcours d'étudiants qui ont été interrompus.
Oui, des études arrêtées, des formations arrêtées.
Il faut reprendre quelque chose, il faut reconstruire une vie entièrement. C'est vrai que le retour... Et puis, certains prisonniers l'évoquent très bien aussi, quand ça va dépendre du travail qu'ils ont effectué pendant leur captivité. Mais celui qui a travaillé dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, intellectuellement, pendant 4 ans, il n'a strictement rien fait. Et on ne retrouve pas ses facultés mentales et intellectuelles du jour au lendemain. Donc lui, il lui a fallu des années et des années pour remonter la pente, par exemple. Donc, il a fini par faire une école d'ingénieur, il a eu une très très bonne situation, mais il lui a fallu du temps pour ça, oui.
Ce que vous évoquez pas, ce qu'on peut peut-être dire une dernière, c'est le taux de suicide. Est-ce qu'il y a un nombre de soldats allemands qui se suicident ?
Il n'y a vraisemblablement pas de travaux là-dessus, à ma connaissance, en tout cas. On a des chiffres évoquant la mortalité, même si vraiment on a des fourchettes qui sont très très compliquées, mais on va dire plusieurs dizaines de milliers de morts, vraisemblablement, hein, soit de sous-nutrition, soit à cause du déminage, etc., etc. Mais le suicide, non, ça, ce n'est pas évoqué. Pour Besançon, en tout cas, j'en ai pas dans les rapports des armées, non. Oui.
Alors, à la fin de votre livre, vous avez il y a un grand tableau de plusieurs quelques mots sur ce grand tableau. Les auditeurs ne le voient pas,
mais c'est effectivement un tableau Excel d'une grosse vingtaine de pages dans l'ouvrage où j'ai listé les prisonniers décédés à Besançon et en inscrivant toutes les informations que je pouvais recueillir sur ces prisonniers, leur nom, leur numéro de matricule, la date de décès et/ou d'inhumation, la rangée. Puisqu'ils étaient enterrés dans un premier temps à Besançon.
Après, en Lorraine.
On les a transférés à Andilly, une nécropole militaire près de Nancy. Et effectivement, c'est un tableau qui m'a demandé des mois de travail. Et le livre a été publié il y a quelques semaines. Il est à ce tableau-là. Je dois déjà y rajouter un nom. Parce que je suis doctorante. Cette fois, ma thèse porte. Je reviens un petit peu en arrière. Ma thèse porte sur l'occupation à Besançon. Et je vais essayer, si les sources me le permettent, d'accentuer les rapports franco-allemand, mais je viens de trouver aux archives nationales un 409e prisonnier décédé qui n'est pas encore dans ce tableau, qui est un prisonnier norvégien. Voilà, comme quoi ce ne sont pas tous
que des
Allemands dans l'armée allemande. Et lui est décédé, je ne l'avais pas encore au moment où le livre a été publié.
En tout cas, état de cause, un magnifique travail de mémoire de la réconciliation allemande qui officiellement est arrivé avec les accords de l'Elysée en 1963 entre le chancelier Konrad Adenauer et le général de Gaulle. On se rappelle ces relations très étroites et cet office franco-allemand de la jeunesse aussi qui a joué un grand rôle.
Exactement,
aussi,
hein, le FAGE, oui, totalement.
Le fameux FAGE, il ne faut pas l'oublier.
Et Helmut Kuhnle, cet ancien prisonnier par qui j'ai commencé mes travaux, le rappelait, c'est d'abord les peuples qui doivent créer l'entente. Absolument. Avant même les États. C'était en tout cas quelque chose de très très important pour
nous. Et on se rend compte dans les commémorations qu'on a vues il y a quelques jours sur la commémoration de la bataille de Verdun de 1916 entre la France et l'Allemagne qu'il faut aussi faire ce travail
de mémoire également.
Voilà. Merci infiniment
merci à vous.
Laure Charles. Je rappelle cet ouvrage qu'on trouve dans toutes les librairies, bien sûr, La captivité de guerre de l'armée allemande à Besançon, La citadelle à l'époque du dépôt 85, Camp de prisonniers de guerre entre octobre 1944 et avril 1948. Est-ce que je peux me poser une question? Est-ce que les guides conférenciers qui vous remplacent évoquent désormais cette partie de notre histoire franc-comtoise? Oui, un petit peu.
Ce n'est pas à moi de juger, je ne sais pas, je ne suis pas allée les écouter, les travaux sont là, carte blanche à qui veut les utiliser.
Ils ont tous les éléments.
Ils peuvent bien sûr les utiliser, voilà. C'est à eux de voir maintenant.
Entendu, merci beaucoup Anne-Laure Charles.
Merci à vous.